Vous écoutez Radio France Internationale, 3 heures ici à Paris, 1 heure de moins en temps universel. Si vous nous rejoignez en 2025 à l'instant, bonne et heureuse année à vous.
Gali Bonin.
En France, le président Emmanuel Macron va-t-il organiser des référendums en 2025? C'est ce que ses vœux à la nation ont laissé entrevoir. Vous l'entendrez dans ce journal. En Afrique de l'Ouest, le départ annoncé des troupes du Sénégal se précise. Le président Bassirou Diomaye Faye dit donner 1 an aux armées étrangères pour quitter le sol national. Et en Côte d'Ivoire, une base française sera rétrocédée dans le prochain mois. En Syrie, une femme à la tête de la banque centrale, c'est une première. Une décision hautement symbolique de la part des nouvelles autorités menées par le groupe islamiste HTS. Et ça fait maintenant 3 heures qu'elles sont interdites. Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, seront maintenant introuvables dans les magasins belges. Objectif, une génération sans tabac d'ici 2040. Et nous terminerons ce journal à Sydney, en Australie. Les habitants ont déjà bien entamé la nouvelle année. Année où ils seront appelés aux urnes. Les Australiens espèrent que cela améliorera leur situation. C'est la tradition. À chaque Saint-Sylvestre, le président français présente ses vœux pour l'année suivante. Une allocution plus courte que les 7 précédentes, 11 minutes dans lesquelles il a rappelé les exploits français des Jeux Olympiques et de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a aussi reconnu que la dissolution de l'Assemblée nationale avait provoqué de l'instabilité dans le pays. Un aveu qu'il n'avait jamais entièrement fait jusqu'à maintenant. Il a invité les Français à se projeter à l'horizon 2050, des concitoyens qu'il envisage de solliciter pendant l'année 2025.
Pour le quart de siècle qui vient, je veux que nous puissions décider et agir avec 2050 en ligne de mire. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui, l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer.
Emmanuel Macron qui semble ouvrir la porte à de futurs référendums. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé que l'armée ivoirienne allait récupérer un camp militaire qui était jusqu'ici utilisé par les Français. Il s'agit du 43e Bima, le bataillon d'infanterie marine de Port-Boué, une commune d'Abidjan. Le départ des forces françaises est prévu dès le mois de janvier. Et au Sénégal, c'était un départ attendu mais qui n'avait pas encore de calendrier. Mardi, dans son adresse à la nation pour le nouvel an, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé que les troupes étrangères devront quitter le Sénégal en 2025, encore une fois sans nommer la France.
La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques, dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Au Moyen-Orient, la France appelle à une transition politique inclusive en Syrie. En déplacement au Liban, le chef de la diplomatie française a appelé à intégrer l'ensemble des communautés dans leur diversité. Selon Jean-Noël Barrot, l'attente principale de la France est que les Syriens puissent prendre en main leur propre destin. Il a fait ses déclarations depuis une base de la FINUL, la mission militaire des casques bleus déployée au Liban. En Syrie, le nouveau pouvoir à Damas a nommé Maïssa Sabrine à la tête de la banque centrale du pays. C'est la première fois qu'une femme va occuper ce poste, une décision qui peut surprendre puisqu'elle a été prise par le groupe islamiste HTS qui a pris le pouvoir après la chute de Bachar al-Assad. Le compte-rendu de notre correspondant à Damas, Mohamed Erami.
En poste depuis seulement quelques jours, elle fait face à un immense défi, relever un pays économiquement exsangue après plus d'une décennie de conflits. Maïssa Sabrine n'est pas une inconnue. Docteur en économie, elle était depuis 2018 la numéro 2 de la Banque centrale sous l'ancien régime de Bachar al-Assad. Son expertise et son expérience l'ont naturellement menée à ce poste clé dans un contexte de crise profonde. Enfin, cette nomination par Hayat Tahrir al-Sham Les islamistes désormais au pouvoir est hautement symbolique. Choisir une femme à un tel poste ne relève pas du hasard. C'est un message fort à l'intérieur et à l'international. L'objectif affiché est clair, stabiliser l'économie et obtenir la levée des sanctions internationales pour permettre à la Syrie de repartir sur de nouvelles bases.
Les précisions sur place de Mohamed Erami. Et Damas, le nouvel homme fort de la Syrie, Ahmad al-Sharé, a reçu le clergé de la communauté chrétienne quelques heures avant la nouvelle année. Depuis la prise du pouvoir par des groupes rebelles en décembre, la minorité chrétienne demande des garanties de protection. Les relations entre les communautés religieuses sont très tendues dans le pays. Un peu avant le 25 décembre, une vidéo devenue virale montrait un sapin de Noël être incendié. Des centaines de chrétiens avaient manifesté de colère dans les rues de la capitale. C'est une première en Europe. Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, souvent au goût fruité et très prisées des ados, sont maintenant interdites en Belgique. La mesure s'inscrit dans le cadre d'un plan national anti-tabac. Objectif, créer une génération sans fumeurs d'ici 2040. Mardi à Bruxelles, les jeunes consommateurs se sont rués dans les magasins. Ils voulaient en profiter pendant que c'était encore possible. Elena Loison.
Oui, à quelques pas de la Grand Place, dans une galerie marchande connue pour ses nombreux vendeurs de cigarettes électroniques, les stands de vente de puffs sont pris d'assaut. Grégoire et Juliette, 14 ans tous les deux, en ont pris 3 chacun.
J'ai pris 3 puffs, une 5% et deux 2%.
Comprenez 5% et 2% de nicotine. Comme de nombreux jeunes belges, ils sont tous les deux entrés dans le tabagisme à cause des puffs.
Les plus grands, ils faisaient, du coup, quand t'arrives, t'as juste envie de faire le grand. Et du coup, nous, c'est à cause de ça qu'on a commencé. Parce que c'était méga simple d'en trouver et comme on était juste à côté à l'école, on venait ici et nos parents ne savaient pas.
C'est précisément des profils comme ceux de Juliette et Grégoire que visent les autorités de santé belges avec l'espoir de limiter l'entrée dans le tabagisme précoce. Alice, 16 ans, puff au raisin à la main, comprend la mesure.
Je comprends. En vrai, je comprends parce que c'est un peu un fléau et c'est un peu pire que la cigarette. Dommage quoi.
Une interdiction pour la santé mais aussi pour la planète car une fois utilisées, les puffs sont jetés et leur batterie est rarement recyclée. D'ici quelques mois, la France et l'Allemagne devraient suivre la Belgique et à leur tour légiférer pour interdire ces appareils jetables.
Le reportage sur place d'Elena Loison. 4h07 à Bucarest et Sofia, où depuis un peu plus de 4h, la Roumanie et la Bulgarie ont officiellement rejoint l'espace Schengen. Après plus de 13 ans d'attente, les deux pays d'Europe de l'Est pourront circuler librement dans cette zone européenne. La transition avait déjà débuté en mars avec la levée des contrôles dans les aéroports et les ports maritimes. À partir du 1er janvier 2025, c'est maintenant les postes frontières terrestres qui s'ouvrent sur les 27 autres pays de l'espace Schengen. La nouvelle année est déjà bien entamée à l'autre bout du monde, en Australie, et les habitants espèrent que l'année qui vient sera plus positive que celle écoulée. En 2025, les Australiens doivent élire un nouveau gouvernement, une élection qui survient après 2 ans, marquée par une importante crise du logement et par l'inflation. Notre correspondant à Sydney, Léo Roussel, leur a demandé comment ils abordaient cette année 2025.
À quelques heures du feu d'artifice, des milliers de touristes attendaient sous le soleil le passage à l'année 2025. Peter est retraité, il est venu de Melbourne avec sa compagne pour assister pour la première fois au feu d'artifice. Et ce, malgré une année 2024 difficile financièrement.
On ne pouvait pas vraiment se le permettre, mais on devait le voir au moins une fois. Le coût de la nourriture, de l'essence, tout augmente, donc on économisera cette année.
Pour les Australiens, 2025 est synonyme d'espoir avec la baisse prévue de l'inflation. Le coût de la vie sera d'ailleurs au cœur des élections législatives prévues dans l'année. Philippe espère voir un débat sain qui permettra de faire avancer le pays et de régler les questions qui préoccupent véritablement les Australiens.
J'espère que l'élection se passera dans le calme et sans trop de haine entre les politiciens. J'espère que le coût de la vie et que les taux d'intérêt diminueront.
Le parti travailliste au pouvoir est pour l'heure mal embarqué dans les sondages. En 2025, le Premier ministre Anthony Albanese et son gouvernement devront convaincre davantage pour espérer enchaîner un deuxième mandat. Léo Roussel, Sydney, RFI.
Et c'est sur ce reportage en Australie que se termine ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, restez à l'antenne et revenez dans une heure pour le bulletin de 4 heures. Nous serons en direct du Brésil pour la nouvelle année là-bas.